Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet de ce soir, il n'a pas écrit le livre. Hein. Mais sur...
Si,
ah, oui. Non, d'accord, bah, tu vas le présenter. Voilà. Et il fait des formations, dont certains sont au bénéfice des formations. Il y a les Casalis, donc il y a Isabelle, il y a Elsa. Voilà. Voilà. Qui est en cours de formation. Alors cette formation, c'est une
Maggie sur un... aussi, je crois.
Maggie.
Maggie
aussi, oui. C'est une formation qui dure sur
trois ans, un week-end par mois. Enfin, un jour par mois, ouais. Un samedi par mois.
Ouais. Sur la relation d'aide. Ouais. Alors la raison de ces trois séances, c'est que j'ai rencontré Jacques pour aborder les questions de personnalité difficile auxquelles on peut avoir à faire face, que ce soit dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Hein, c'est des personnes qu'on peut rencontrer dans notre lieu de travail comme dans l'Église. Et c'est important de savoir déjà à quoi ça ressemble, enfin, qu'est-ce que c'est une personnalité difficile, en particulier narcissique, parce que c'est aussi une structure de personnalité qu'on ne connaît pas très bien, mais que vous apprendrez à connaître de plus en plus, parce que la société actuellement produit de plus en plus. Vous aurez forcément des personnes comme ça que vous rencontrerez. Et c'est important de savoir comment agir, comment réagir, comment se comporter face à de telles situations. Et vous savez aussi qu'à l'intérieur de notre union d'église, donc on a une difficulté de ce genre et on a besoin d'être conseillé pour savoir comment agir et puis ne pas se fourvoyer en fait dans des impasses. Voilà, donc moi j'ai déjà discuté personnellement avec Jacques, avec Michel aussi, mais ce soir donc il va commencer cette série de trois rencontres, donc essayez d'être là aux trois pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'enseignement. Ben, je te laisse la place, Jacques.
Oui, merci. Personnalité difficile, c'est pas difficile, c'est ma belle-mère. C'est ma belle-mère. Voilà. Bon. Merci. On va essayer d'y voir un peu plus clair, hein, un peu ça, un petit peu. Alors, pour ce soir... je vais essayer de brosser d'abord un petit tableau de personnalité. Qu'est-ce qu'une personnalité difficile, d'accord? Et puis j'irai sur une des plus difficiles, d'accord, qui est le pervers narcissique. C'est pas la seule. Et puis la prochaine fois, on parlera alors de ceux qui sont beaucoup plus courants, peut-être d'autres personnalités difficiles. Voilà. Je vous présenterai le livre que j'ai porté tout à l'heure, si vous voulez. Ça sera là, voilà. Alors, première partie, c'est donc les personnalités difficiles. On peut poser des questions, hein, d'accord, en cours de route, hein, d'accord, comme ça. Hein, ça s'ira plus facilement, comme ça. La science qui s'occupe de personnalités difficiles s'appelle, bien sûr, la psychopathologie, hein, d'accord, hein, qui est la science de la souffrance psychique. Voilà, pour placer les choses. La personnalité, c'est la structure de la personne. Alors, à ne pas confondre avec le caractère, avec les dons, avec les capacités, avec beaucoup de choses, avec les blessures, surtout les blessures. Mais c'est la structure de la personne. Et si je prends l'image de la maison, et de cette église ici, par exemple, où il y a eu beaucoup de travaux, c'est que on peut ouvrir des fenêtres, on peut tomber des cloisons, on peut repeindre, tapisser tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas toucher à la structure de la maison, avec les murs maîtres, les colonnes qui tiennent et les tuiles du plafond, sinon la maison s'écroule. Hein? Et la structure, c'est ça, c'est la structure de la maison. Hein? Donc ça, on ne pourra pas y toucher. Hein? On peut aménager des cloisons, et on peut cacher, on peut mettre des paravents, ce que vous voulez, des tableaux, ce que vous voulez, ou repeindre toutes les couleurs, mais la structure, elle ne bougera pas. Si je repasse dans 20 ans devant cette maison, la structure sera la même. Vous aurez pu la repeindre. À l'intérieur, changer beaucoup de choses. Tout ce qui est secondaire, on peut le toucher. Tout ce qui est vraiment construit très tôt dans la vie de l'enfant et donc de la personne, ça, on ne peut pas y toucher. Quoi. Si on le touche, on fait décompasser les gens. Et donc, la décompensation, c'est quand quelqu'un marche avec une béquille parce qu'il a la jambe cassée et vous lui dites, maintenant, on t'enlève ta béquille. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'écroule. Voilà. Et donc, les personnalités difficiles sont des gens qui ont mis des béquilles pour marcher dans la vie, pour la plupart, et qui ne peuvent pas marcher sans cette béquille. Enlever la béquille, c'est les faire décompenser. C'est-à-dire, quand je dis décompenser, c'est le suicide, vous avez compris. Le suicide, c'est la folie, c'est les choses graves, d'accord, qui font que la personne n'est plus elle-même après, comme ça. Quoi. Voilà. Donc la structure de la personne se construit alors très tôt dans l'enfance à travers ce qu'on appelle les étapes psychosexuelles de la personne. Ça, vous connaissez sûrement ça. Quoi. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est, on le verra entre tout ce travail-là, qui est maintenant un gros morceau du travail des psychologues, et puis le texte biblique aussi. On va faire référence au texte biblique et en même temps, si vous voulez. Quoi. Puisqu'on... C'est je suis têtu, moi. Comme ça. Ça, c'est l'être humain, ici, et on le regarde de deux côtés différents, mais c'est le même créateur qui a fait l'être humain. D'accord ? Donc ça, c'est le côté spirituel, et ça, c'est le côté psychologique. Bien, donc on ne confond pas les deux, mais les lois qui sont ici doivent correspondre aux lois qui sont ici. Les lois de vie, d'accord ? Alors, on a des lois de vie psychologiques, on a des lois de vie spirituelles, et les deux, d'accord, construisent l'harmonie. Donc, comprendre celle-ci, ça veut dire qu'on peut comprendre aussi, ici, ce qu'il y a dans la Bible par rapport à la personne. Sans les confondre, vous avez compris. Parce que là, ça ne marche pas. Quoi. Voilà. Il faut savoir une autre chose, si je peux me permettre, c'est que le psychologique est d'abord poussé par le biologique. C'est le biologique qui est en premier, qui pousse le psychologique, qui pousse le spirituel. C'est pas le contraire, d'accord ? Par exemple, l'adolescence, c'est le biologique. Et après, il faut la construire, le psychologique de l'adolescence. Et après, beaucoup plus tard, dans le spirituel, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas converti. Je ne parle pas de conversion ici. Je parle de la construction de la structure spirituelle de l'individu. D'accord ? Il y a une structure psychologique, psycho-affective, et une structure spirituelle qui n'est pas très connue, entre parenthèses. Parce que quand on parle de croissance spirituelle, la plupart du temps, on parle de c'est quoi ? Plus d'amour, plus de consécration, plus. Alors c'est comme je dis à quelqu'un, grandir c'est grossir. Quoi. Alors, il y a des lois, vraiment des lois qu'on connaît très bien maintenant, ici, bon, ça c'est notre problème. Bon. Donc le psychologique est poussé par le biologique. Si je vous pose la question, quel âge vous pensez avoir ? Alors pas pour les jeunes peut-être, mais pour les autres, on a au moins 10 ans de ce qu'on a, de moins que ce qu'on a. On a 10 ans en retard au niveau psychologique sur le biologique. C'est bien, hein ? Ça fait qu'on se croit jeune comme ça. Mais en fait, on a quand même l'âge des affaires. Bon, donc, ça veut dire que l'individu se construit d'abord dans son cerveau, d'accord ? Et ça a une influence sur ça construit sa psychologie et ça construit sa spiritualité derrière après. Quoi. Ça veut dire que quelqu'un qui a des problèmes ici, il en aura là automatiquement. Ça veut dire qu'on ne va pas dans ce sens-là, on va comme ça, dans la construction. Donc nous, on va parler de ça, et on va parler de ça, d'accord ? Parce que pour moi, on doit être d'accord là et là. On a la même vision des choses, même si le langage n'est pas le même. On a bien compris, d'accord ? Puisqu'on parle de spirituel. Alors, on classe les personnalités difficiles, les personnalités en trois grandes catégories. Alors tout ça, c'est assez récent, je dirais. Avec Freud, on aura deux grandes catégories qui se mettront en place. Et puis dans les années 70, et puis 80, bien sûr, on va voir, la société va produire des nouvelles pathologies, et on va être obligé de mettre entre les deux structures de personnalité qu'on connaissait, une troisième, qui va se développer, qui va prendre certainement, on pense maintenant, sera la plus importante. Donc j'explique ça si vous voulez. Voilà. Alors, si je fais une échelle sur 100, vous avez actuellement 60% de personnes qui sont, qu'on appelle névrosées. qui ont des névroses. C'est-à-dire des gens normaux. Hein? Ça, c'est des gens normaux. Hein? Alors, je vais expliquer après si vous voulez les mots. Hein? On a 33% de gens qui sont état limite. Oui. Non, alors ça, c'est encore différent. Excusez-moi. Qui c'est qui a les borderlines?
C'est moi.
C'est toi, oui. Alors, les borderlines font partie des états limites.
D'accord.
Avant, on les confondait. Et puis, une dizaine d'années maintenant, on les différencie. C'est-à-dire que dans les états limites, on a des borderlines, mais on n'a pas que ça. On a des narcissiques, on a beaucoup de choses. Hein? Mais avant, on disait les deux. Mais ça, c'est, ça se met en place dans les années 70. Hein? C'est pas vieux, ça veut dire une génération à peu près. Hein? D'accord. Et puis, on y noie 7%, si mon calcul est juste. Hein? Ça, c'est ceux qui ont des psychoses. Donc ça, c'est les gens vraiment, vraiment... le psychiatre, d'accord, et les maisons spécialisées pour ça, d'accord, hein. Par exemple, une psychose, c'est la maniaco-dépression. Hein, ça, c'est une psychose. Hein. Voilà. Alors, dans le... J'ai fait une petite liste pour... Je vous dirai un petit peu les, hein, comment ça fonctionne, hein, quel est le problème de chacun ici. Hein. Parce que quand on va parler tout à l'heure des pervers narcissiques, ça va les placer. Donc, je disais le névrosé, ça va jusque-là ? Hein? Si scolaire, on me le dit. Vas-y, tu veux dire quelque chose ?
Non, c'est bon, ouais.
Voilà. Est-ce que les bipolaires sont en...
Alors, les bipolaires, oui, c'est des maniaques dépressives.
Pardon ? Ah oui, c'est ça.
Donc, ils sont ici, bien sûr. D'accord.
Mais c'est des gens qui manifestent leur psychose ou ça peut être caché parce que 7%, c'est énorme ?
Oui. Mais parce que tu vois, dans les psychoses, il y en a pas mal. Hein. Il y a des paranoïaques. Hein. D'accord. Je vais t'expliquer. C'est ceux qui sont coupés de la réalité. D'accord ? Leur fonctionnement, ils ne sont plus dans la réalité, ils sont ailleurs. Voilà, le paranoïaque est ailleurs, je veux dire, tu vois. Le schizophrène, le maniaco-dépressif, ils ne sont plus dans la réalité.
Mais il y a des degrés de...
Oui, il y a des degrés pour chacun, mais...
Quel que soit le degré, c'est dans les 7% ou c'est à partir d'un certain degré qu'on est dans
non. les 7% Non, c'est pas ça, c'est pas une échelle de progression. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes ici, hein, c'est pas les divisions de football, hein, vous n'avez aucune chance de passer ici. Fait une chance, entre guillemets, hein, d'accord. Et si vous êtes là, vous ne serez jamais là. Hein, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un cloisonnement ici, étanche. On ne change pas de catégorie. Hein, si à 25 ans, 23, 25 ans, hein, tu fais là, tu resteras là de ta vie. Quoi.
C'est une structure mentale ton...
Comment ?
C'est une structure mentale.
Oui, une structure de la personnalité qui ne bouge pas. Hein, d'accord. Alors, à l'intérieur, tu peux évoluer un petit peu à l'intérieur, mais tu ne changes pas de catégorie. Ça, c'est très important à savoir aussi. Mais tu ne régresses pas non plus. Hein.
Les 7%, ils sont dans des hôpitaux psychiatriques ?
Non, pas
non plus. Non,
il y en a beaucoup qui sont dans la rue. Hein.
Ah, d'accord. Oui. Et on ne les reconnaît pas forcément.
Non, même dans nos églises, on en a pas voir. Bah, tu les reconnais si, tu les reconnais quand tu les fréquentes.
Voilà, quand
dire, dans la rue, bon. C'est pas tous ceux qui parlent tout seul dans la rue, maintenant avec les téléphones. Hein. Ça fait bizarre d'ailleurs, entre parenthèses.
Les mecs sont mariés, ont des familles.
Oui, bien sûr. Il y en a qui peuvent vivre à peu près normalement s'ils se soignent. Ah. Tu vois, mais pas tous. Par exemple, le maniaco-dépressif, les bipolaires, comme tu disais, s'ils se soignent médicalement parlant, d'accord, ils ont une vie à peu près normale. Voilà, d'accord. Mais tout le problème, c'est de se soigner. Et là, c'est l'environnement qui joue un rôle essentiel. Hein, voilà. Mais bon, pour répondre à la question. Hein. Donc, parmi les personnalités difficiles, hein, je dirais, il y en a partout, mais tout le long, hein, d'accord. Il y en a des beaucoup difficiles, hein, ici, hein, des assez difficiles là, mais des pas trop difficiles ici, c'est-à-dire c'est nous autres, quoi, ici. Hein, voilà. Hein, d'accord. Alors, tout ce qui est du domaine de je vous ai fait une feuille, tout à l'heure, je vous donnerai ça, si vous voulez. Hein, tout ce qui est du domaine de l'hystérie, par exemple, c'est ici, tu vois, par exemple, ce qu'on appelle l'hystérie, les obsessions, hein, les phobies, tout ça c'est dans les névroses, hein, d'accord, hein. On vit très bien avec une petite phobie des araignées, hein. Il s'agit d'acheter une bonne bombe à tuer les araignées, hein, et faire passer son mari avant ou sa femme avant, et c'est bon, je veux dire, et on n'a pas perdu le contact de la réalité pour ça, quoi. Dans les états limites ici, alors on a une qui va s'agrandir, et comme j'ai dit, hein, on a tout ce qui est compulsif, hein, tout ce qui est dépendance, hein, tout ce qui est addiction, hein, tout ce qui est dépressif. Pas les dépressions, attention, c'est pas pareil. Hein. Une personne, un état dépressif et une dépression, c'est une chose différente. Hein. Parce qu'on voit des dépressions ici, ici et ici. D'accord ? Mais une personne dépressive, c'est ici. Hein. Et bon, voilà. Et puis, alors, ici, j'ai dit, là, c'est des choses beaucoup plus graves, comme et la paranoïa, la maniaco-dépressive, tout ça, quoi. Alors. Quel est le problème de chacun de ces personnes, hein, si vous voulez, rapidement, pour après parler plus spécifiquement. Alors, je commence par les névroses, hein, comme je commençais tout à l'heure, hein, si vous voulez. Hein, voilà. C'est-à-dire que dans la névrose, la personne a un conflit intérieur. Dans les névroses, il y en a plusieurs. Hein, un conflit permanent, hein, intérieur. Elle est consciente de la souffrance que cela lui porte. Hein. Si j'ai peur des bestioles avec des petites queues, là, comme sur l'ordinateur, hein, je suis conscient que j'ai peur des souris. Je suis conscient, donc j'évite de les rencontrer, j'évite de travailler dans un laboratoire qui travaille sur elles, hein, ainsi de suite. Mais je ne sais pas quel est le conflit qui génère ça. Je sais que j'ai peur des souris, je sais que c'est un conflit intérieur qui remonte à mon enfance, mais je ne sais pas le conflit, mais bon. Alors, si on travaillait bien sur le sujet, on pourrait gérer le problème. Mais la règle veut que, je dirais, le bon sens veut que ça cristallise, hein, une petite névrose sur quelque chose comme ça, cristallise tous nos conflits intérieurs qui trouvent une expression là, et comme il y a une expression, il ne va pas nous embêter ailleurs. Tandis que si, par exemple, je chasse l'esprit des souris, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord, bon, hein, l'esprit de peur des souris, alors je vais jouer un mécanisme de défense qui est le refoulement, comme vous connaissez, et qui va faire que je n'aurai plus peur des souris parce que le symptôme va disparaître, mais le problème restant, ça va se produire ailleurs, d'une autre manière. Et toujours dans un domaine plus fort. Le plus fort du plus fort étant après le biologique, hein, d'accord, hein, les cancers, les trucs comme ça, quoi. Hein,
voilà. Il faut garder sa phobie.
En fait. Oui, les petites phobies, on les garde. On se les soigne, on se les garde, et voilà quoi. Maintenant, si c'est vraiment une phobie qui te paralyse complètement, bon, il vaut mieux peut-être les soigner aussi, hein, un petit peu, quoi. Et des agoraphobies, tout comme ça, tu vois. Hein, et pour ceux qui... Mais bon, je dis, c'est la personne est consciente de sa souffrance, elle comprend ses comportements, et elle vit dans la réalité de sa souffrance. Autrement dit, elle ne dit pas, c'est la faute aux souris, j'ai peur aux souris. Voilà. Ce que dira le borderline, par exemple. C'est la faute des autres, j'ai un problème. Celui qui est névrosé, hein, sait que c'est lui qui a un petit problème à gérer. Hein, ou à avoir à commencer là. Quoi, hein. Voilà. Et il va trouver des solutions adaptées qui lui permettent de vivre normalement. Et que ça, c'est notre pain quotidien à nous tous ici. Hein. Alors, je vous parlerai peut-être une autre fois, si vous voulez, des principales névroses, mais ce n'était pas le but ici ce soir, c'était juste de classifier hein, un petit peu les choses. Ça va pour la névrose, pour les névroses, pardon, hein, donc 60% des gens sont comme ça. Hein. Alors, deuxième problème, c'est, on va faire celui du bout, la psychose, hein, qui, elle, se caractérise par une transformation radicale, je dis bien radicale, du rapport du sujet à la réalité. C'est-à-dire que le sujet a perdu, voilà, hein, le contact avec la réalité. Il n'est plus dans la réalité. Le paranoïaque n'est pas dans la réalité. Hein. Voilà, il est dans un système de construction de pensée qui fait qu'il bon, il est déconnecté, quoi, hein, là de la réalité.
Hein. Que ça n'a jamais
été déclaré, peut-être. Si. Toujours. Ça va se déclarer à l'âge adulte, souvent, quoi. Hein, à partir de 23 ans, dernier moment, 23 ans, par là, ça déclare par là. Si, ça se déclare. Tu vois ?
Mais ça voilà. Alors, caché.
Ça peut être caché. Alors, on prend l'image pour expliquer ça. C'est Freud qui prend cette image d'un diamant. D'accord ? La personnalité, c'est le diamant. D'accord ? Le diamant, tu peux le regarder, il est pur. D'accord ? Sauf que le jour où tu le heurtes avec un autre diamant, s'il a une faille, ça va apparaître. Tu peux le taper dessus avec un marteau, ça ne va pas se voir. Ce qu'il faut, c'est un autre diamant qui va le confronter, qui est aussi dur que lui, et qui va révéler la faille qu'il y avait dans le diamant. Ce n'est pas le choc avec l'autre diamant qui va créer la faille. Elle y était déjà, mais elle n'était pas visible, pour répondre à ta question. D'accord ? Mais c'est le rapport à l'autre diamant qui va faire ça. Or, le rapport à la réalité, c'est toujours l'autre, c'est-à-dire les autres. Hein, le diamant, c'est moi, le rapport au diamant, c'est toi. D'accord ? Et c'est quand on va se frotter, et particulièrement au niveau de la sexualité, que vont apparaître les fissures. Et que là, vont apparaître donc les psychoses. Elles étaient là, pas dès le départ. Hein. Il y a un gros débat là-dessus, quoi. Mais maintenant, Mais c'est pas déterministe non plus. Hein. Voilà. Mais ça va apparaître, la fissure va apparaître, et elle était là déjà. Donc ça, il suffira de, que la personne soit renvoyée d'un poste de travail, qu'elle se marie, qu'elle rencontre la sexualité pour que ça se révèle son problème, tu vois, je veux dire. Par exemple, un événement va révéler la fissure qui était là. Il faut bien être d'accord. Hein. Alors, ce qu'on n'a pas toujours compris, des fois on voit que c'est l'événement qui est responsable de la fissure. Non, elle était là. Ça va dit comme ça hein. Le psychotique, comme on l'appelle, bien sûr, quoi, hein, d'accord, n'a pas conscience complètement de sa blessure, de sa souffrance. Hein. Il n'en a pas conscience. Il n'a pas conscience qu'il fait souffrir les autres en plus. Hein. Il a ses codes à lui. Il a ses propres codes qui ne sont pas les nôtres. Il a ses logiques à lui qui ne sont pas les nôtres. Donc ça, c'est du ressort de la psychiatrie. Hein, d'accord hein. Je dis 7%, oui, c'est beaucoup.
Mais c'est inéluctable.
Le chiffre ou le...
La personne sera toute sa vie.
Voilà, oui. Oui. Ça fait partie. Alors, au niveau hein, mais on va en parler avec la Bible tout à l'heure. Hein. Ça fait partie des injustices de la vie. Tu vois ? À cause du génétique, à cause de mes parents, à cause de l'éducation, à cause de l'environnement, tu vois, eh bien, je vais développer une personnalité hein, psychotique et c'est moi qui ai payé les frais. Mais c'est... Oui. Oui. Voilà.
Mais les guérisons divines existent ?
Non. Voilà, je vais être clair tout de suite, hein, on m'a reparlé. Et, non, et le. Comment dire ça? J'en reparle tout à l'heure, hein, d'accord hein, mais sinon, je ne perdais pas mon temps pour raconter tout ça. Je vais dire, écoutez, on va prier pour les gens. Hein, et on va, je vais dire comment on va prier pour les guérir, et puis on n'a plus de problème. Hein, les hôpitaux psychiatriques seraient vides, quoi, d'accord hein, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, si vous voulez. Hein, d'accord alors, il y a des psychoses aiguës. Hein, je veux dire, qui de temps en temps se manifeste, hein, par exemple. Hein, d'accord. Puis il y a des psychoses permanentes, chroniques. C'est tout le temps ailleurs, les gens. Quoi, hein. Et quelques-uns, c'est par moment. Hein, ils déconnectent par moment, comme ça, un petit peu. Quoi, hein. La schizophrénie, c'est chronique. Hein, hein, bien sûr. Quoi, hein, comme ça. Hein. Un psychotique qui est livré à lui-même meurt. Se détruit. Si on ne le protège pas contre lui-même, il se détruit. C'est pour ça qu'il y a une prise en charge par la société de tous ces gens-là. Quoi. Donc ça, c'est les deux qu'on avait avant en catégorie. On a mis une troisième catégorie, je veux dire, à partir des années 70, et qui est donc les états limites. Et qui va se développer, je l'ai dit tout à l'heure, et, par rapport au mode de fonctionnement qui est le nôtre aujourd'hui. Et, on sait d'avance que dans 20 ans, on aura un chiffre beaucoup plus important que ce qu'on a là. Quoi. C'est déjà prévu. Quoi. Donc, les états limites. C'est, si vous voulez, pour parler d'états limites, donner une image hein, un petit peu. C'est des gens qui sont restés à l'adolescence. Ils sont devenus adultes, mais ils sont restés adolescents.
C'est des adolescents.
Ça, c'est encore autre chose, l'adolescent, quoi. C'est des gens qui ne sont pas finis, mais qui vont se finir. Tandis que l'état limite, ils ont pris un peu de retard, tu vois. Hein, c'est la crise de la quarantaine qui vont finir leur histoire. Mais, tandis que l'état limite, c'est vraiment figé l'histoire. Hein, c'est bloqué, tu vois. Hein. Ça veut dire que le gars qui, ou la personne qui est dans l'état limite n'a pas toujours conscience de son problème. Il n'a pas toujours conscience qui blesse les autres. Et pour lui, son problème est la cause des autres. C'est les autres qui ont un problème, c'est pas lui. Comme l'adolescent. Hein. Bon, ça veut dire que par exemple, il est dans un comportement tout ou rien. Hein. Vous pouvez être génial maintenant. Hein, rappelez-vous les adolescents, et nul dans deux minutes. Après. Hein, Voilà, donc une instabilité des sentiments, des émotions, de la pensée, ainsi de suite. C'est à bras raccourcis dans Astérix. Oui. Alors c'est intéressant, Astérix, c'est intéressant parce que c'est vraiment le portrait des personnalités difficiles. Ils ont pris, sérieusement, ils ont pris le catalogue, ils ont filé une personnalité difficile à chaque personnage. Et à bras raccourcis, il est porté par les autres. Sur le bouclier, vous savez. D'accord. Et il tombe toujours. Parce que les autres sont incapables de le porter. Alors, je m'arrête un petit peu sur les états limites, si vous voulez. Parce que c'est là qu'on va travailler un petit peu, si vous voulez. D'accord. C'est une forme de fonction défensive. L'état limite est une situation psychologique de défense. Il se défend contre quoi ? Il se défend contre une perte qu'il n'a jamais intégrée. La perte de la mère. D'accord ? Je parle pas du deuil, hein, vous avez compris. Hein ? Je parle de quand il doit quitter sa mère, quand il grandit. Hein, d'accord, hein ? Lui, il n'a jamais accepté cette perte. Là, on est dans l'éducation, bien sûr. Hein. Donc, il a mis en place tout un système de fonctionnement, un mécanisme de défense spécifique pour gérer cette peur de la perte. Voilà, cette absence d'acceptation de la perte, pour parler franchement. Quoi. Autrement dit, il n'a pas intégré la réalité qu'il n'est plus fusionnel avec sa mère, qu'il n'est plus tout-puissant. Tant qu'il est fusionnel, il est tout-puissant. Et c'est parce qu'il quitte sa mère, qu'on le détache de sa mère, et qu'il accepte ce système-là, d'accord, ça c'est le rôle du père, hein, qu'il va intégrer la limite. Hein, il n'est pas tout puissant. Il y a quelqu'un d'autre que lui, son père, qui met, ou celui qui joue son rôle, peu importe, hein, qui joue la fonction d'intégrer la limite. Et lui, il n'a jamais fait ça. Il est resté tout puissant. Oui. Tout le monde est confronté à cette perte. Les névrosés l'ont bien intégré, vous voyez, les autres ne l'ont pas intégré du tout. Et ils continuent à fonctionner tout puissant. Voilà. Ma mère pouvait tout, ma mère faisait tout, ma mère me disait que j'étais beau, que j'étais grand, que j'étais bien, que j'étais le meilleur, que j'étais le génie de la terre. Chaque fois que je parlais, elle me disait que j'étais bien, que j'avais un discours élaboré. Vous voyez la subjectivité de la mère, bien sûr. Voilà. Donc il va mettre en place deux mécanismes de défense spécifiques. Vous savez que les mécanismes de défense sont là pour nous protéger notre être intérieur, on va dire, notre personnalité intérieure, et des remous de la vie. Quoi. Alors le premier mécanisme de défense, c'est la projection. Ça, c'est typique donc d'un borderline. La projection, c'est le comme je suis incapable de canaliser, d'accord, la perte, d'accord, donc je vais projeter sur les autres tout ce que je ne sais pas vivre moi. Voilà. Autrement dit, je vais attribuer aux autres, mais quand je dis attribuer, c'est dire vraiment tu l'as dit, tu l'as fait, d'accord, voilà. Les bonnes pertes et les mauvaises pertes. Alors, qu'est-ce qu'une bonne perte, une mauvaise perte ? C'est ces gens qui vous disent que personne ne les aime. Donc, ils attribuent à l'autre la mauvaise perte. C'est la faute aux autres, je ne suis pas aimé. Puis le second qui est beaucoup plus alors embêtant, parce que lui il est vraiment embêtant, c'est le clivage. Et le clivage, c'est que je vais partager les gens en morceaux. Et quand je dis les gens, ça veut dire la personne qui est devant moi. Et il y aura une bonne partie de la personne et une mauvaise partie de la personne. Quand je vois André, c'est une personne qui est bon, qui fait des choses bien, des choses peut-être pas moins bien, j'en sais rien. Hein. Il faut demander à sa femme, hein. D'accord, hein. Bon, encore, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur. Hein. D'accord. Mais là, c'est-à-dire que dans le clivage, il y a l'André qui est bon quand il fait, je ne sais pas quoi, moi, le jardinage. Hein, c'est le meilleur, c'est le hein, d'accord, là il est très bon. Et puis il y a l'André détestable, l'André méchant, l'André que je ne peux pas voir, l'André que j'ai envie de supprimer quand il fait autre chose. Ça c'est le clivage. On partage les gens, une partie est bonne, l'autre est, quand je dis mauvaise, plus que mauvaise. Et ce qui fait le clivage, c'est la sexualité souvent. Donc vous allez avoir ces gens qui vont avoir une relation, par exemple avec leur conjoint, très, 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 très bonne, très amoureux, tout ça, sauf la sexualité. Ce qui va poser un problème au couple, là. Il faut comprendre ça, hein. D'accord ? Dès qu'on touche à la sexualité, là, on touche, hein, c'est impossible. Hein. Donc, clivage. Mais on le voit dans les églises, les clivages aussi, comme ça, hein, d'accord, hein, entre la spiritualité et le physique, par exemple. Hein. Ça, c'est un mécanisme de défense totalement borderline, quoi. Ceux-là sont mis en place pour protéger.
Donc c'est quand même pour protéger. Donc c'est...
Toujours protéger, mais protéger, ça ne veut pas dire que c'est bon non plus.
D'accord.
Hein, d'accord. Hein, regarde, je reviens à ma béquille, excuse-moi, je reviens à ma béquille. Elle est là pour m'aider à marcher.
Ouais.
D'accord. Tu as le droit d'avoir une béquille. Puisque tu as un problème de casser la jambe au ski, tu as une béquille, tu as le droit. D'accord. Seulement, ne viens pas me dire que ta béquille, c'est la norme. Et que tu remercies le Seigneur d'avoir une béquille, parce que c'est ça la norme.
D'accord.
Et que tu voudrais que tout le monde marche avec des béquilles comme toi. D'accord. On appelle ça canoniser la pathologie. Mais c'est là que le problème. C'est que quelqu'un qui est dans cet état-là, hein, qui est dans cet état limite, lui, pour lui, c'est normal. D'accord. Ce qui n'est pas normal, c'est celui qui est à l'extérieur qui le voit. Hein, c'est ceux qui sont du côté névrosé qui le voient. Lui ne le voit pas. Et il dit que c'est ça la norme. Et il enseigne la norme. Puisque c'est la norme. Alors tu vois un peu les petits problèmes que ça peut créer, quoi, pour les gens normaux.
Surtout qu'ils sont nombreux, quand même.
Oui, il y en a pas mal. Hein. On a des exemples célèbres dans la Bible. Hein, Paul. Paul était à la limite, clairement, quoi. D'accord ? Et donc ça veut dire qu'on ne met pas en cause ni leur conversion, ni leur consécration, ni l'amour du Seigneur. Hein, t'as compris, hein?
Ni leur message.
Ni leur message. Enfin, pour Paul, hein, il y a des choses qu'il faut quand même corriger un petit peu. Hein, tu vois, enfin, pas corriger, mais j'ai peut-être le mot un peu fort. Mais il faut remettre dans leur contexte, je veux dire. Hein, voilà, hein, ça va comme ça. Hein, d'accord, oui, remettre dans leur contexte, mais bon. Hein, ça fait partie. Paul n'est pas Jésus. Hein, même si on dit Saint-Paul, quoi. C'est quand même pas Jésus, quoi. Quand on dit que tout est inspiré, ça ne veut pas dire que tout est à prendre au pied de la lettre. Sinon, il faut lapider les femmes, il faut, hein, d'accord, hein, brûler les maisons et passer au fil de l'épée tous les infidèles, quoi. Si c'est inspiré, tout ça, quoi. On le voit dans son comportement avec les autres. C'est jamais lui qui a tort, Paul. C'est toujours les autres qui l'abandonnent. C'est les autres qui le laissent tomber. C'est les autres qui sont pas reconnaissants, c'est les autres qui le tuent. Il est toujours en train de se plaire des autres. Et puis regarde son discours. Un jour, il est le plus grand des pécheurs. Tu vois ? Le lendemain, il est le plus petit des apôtres. Attends, moi, j'ai sûrement des pécheurs qui étaient plus grands que Paul, quand même. Entre nous, on a bien trouvé quelques-uns, quand même. Tu vois ? Hein ? Et des apôtres, c'est peut-être pas le plus petit. Mais tu vois, il était dans une. Hein, comme l'ado, tu vois, comme ça. Hein ? Tu le vois, on le voit très bien quand il est en relation avec une réalité qui est Barnabas. Barnabas, qui est un homme de paix, qui lui est un névrosé de base, tu vois, qui n'est pas à ta limite. Et il suppose, voilà, c'est, tu vois. Même si après il reconnaît qu'il a eu tort. Mais ça ne fait rien, quand on se dispute, quoi. Hein, même il va contre le Saint-Esprit, ce n'est pas grave. Tu vois, voilà. Hein, ben oui, c'est Paul, tu vois, je veux dire. Alors là, tu as un bon exemple de pathologie canonisée. Avec quand Paul se sépare de Barnabas. Tu te rappelles l'histoire, hein, d'accord. Alors, si tu remontes, tu lis toute l'histoire, c'est il part de Jérusalem. On leur impose les mains. Les anciens de Jérusalem imposent les mains pour une mission précise. Hein, aller visiter les églises. Et la mission doit s'effectuer avec Paul et Barnabas. C'est clair le message. D'accord ? Ils se disputent. Enfin, plutôt Barnabas ne veut pas se soumettre à Paul, accepter les caprices de Paul. Bon, donc ils se séparent. Mais Paul, bon dans l'âme qu'il est, il n'a pas compris que la réalité avait changé. Il faut que la réalité plie à ce qu'il est. Donc il va continuer, en prenant quelqu'un d'autre avec lui, Silas. Il va continuer avec Silas de faire le même boulot qu'il faisait avec Barnabas. Et qu'est-ce qu'il y a tout de suite après ça? Tout de suite. Mais le Saint-Esprit qu'ils avaient envoyé, le Saint-Esprit l'empêche. Il lui dit, mon cher Paul, tu n'es pas manpower ici. Voilà. D'accord? Moi, je suis plus têtu que toi. Hein? Et il y barre toutes les villes où il devait aller visiter les églises. Voilà. Tu vois? Et Paul ira faire autre chose. Il ira à Philippe. Hein?
C'est intéressant de la ville avec ce...
Et je t'invente rien là, hein,
d'accord.
Et voilà, donc là, pour te montrer que oui, il est comme ça, Paul. Ça n'empêche pas qu'on l'aime, qu'il est attirant, qu'il est, tu vois, c'est un bon leader, tout ce que tu veux. Mais quand on lit des fois des livres, Paul, meneur d'hommes, fais attention à ce qu'on lit, des fois, tu vois. Hein, des fois, il n'était pas très. Hein, mais bon. Hein. Il dit, je voudrais donner mon corps pour eux, je voudrais donner ma vie pour mes frères. Il a un discours extrême, je suis désolé de le dire, quoi. Hein, vraiment, bon. Hein. Tu vois pas Jésus dans un discours comme ça. Non, non, alors là, il était équilibré quand même. Hein, rassure-toi. Hein, bon, excuse-moi. Donc c'est parmi les personnalités difficiles qu'on va trouver quelqu'un qui nous intéresse ce soir. Hein, le narcissique. Il est classé parmi les personnalités narcissiques. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en contact avec la réalité. Les autres ont toujours tort et lui a toujours raison. Alors, je parle du narcissique avant de parler du pervers narcissique, qui est encore autre chose. Hein, on est d'accord, hein? Alors, parce que le pervers narcissique n'est pas dans les trois catégories qui sont là. Il n'est ni là, ni là, ni là. Hein? Il est ailleurs, ici. Parce que lui, ce n'est pas lié à la construction de sa personne en tant qu'enfant. C'est un choix délibéré. À l'adolescence et confirmé au jeune adulte, à 20 ans. Donc le pervers narcissique, il choisit de devenir pervers narcissique, et une fois choisi, confirmé, bon ça dure quelques années quand même, rassurez-vous, eh bien il va être dans cette structure pervers narcissique, qui n'est pas une des trois qui sont là.
Mais ça veut dire qu'à l'adolescence, il y a encore moyen qu'il fasse un retour.
Oui, ça serait le dernier moment qu'il faudrait que les parents mettent les points sur les i avec lui. Mais comme ça a commencé à se mettre en place, tu vois, et ça va continuer, tu vois, je veux dire, voilà, oui, il y aurait vraiment que, tu vois, quelque chose à faire, mais bon. Hein. Je vais en parler après, mais pour dire qu'il n'est pas dans le, hein, ici, qu'on a les trois là. Hein. Pour ça qu'il est totalement, le verra, totalement responsable de ce qu'il fait. Parce qu'il a choisi cela, en conscience, et en connaissant ce qu'il faisait. Donc je reste là pour les narcissiques, parce qu'on les confond souvent. Hein. D'accord, le narcissique. Oh, c'est sympathique, le narcissique. Il a trois amis. M-O-I. Hein? Bon. C'est quelqu'un qui souffre d'un vide intérieur. La perte de la mère n'a jamais été comblée. Il n'a jamais intégré la réalité. La réalité, je dis, c'est les autres, la réalité. Vous vous rappelez ça, hein? La réalité, c'est toujours l'autre. Dans la psychologie, là, hein? D'accord? C'est l'altérité, la réalité. Mais voilà une bonne loi psychologique et spirituelle. Hein? Ici. Là, je parle d'altérité. Hein? Ici, Dieu les créa hommes et femmes. Différents. et donc, on voit tout de suite l'altérité mise au départ comme moyen, hein, d'épanouissement de l'individu. Et vous rappelez que Adam, ici, il a un petit problème, on reconnaît Ève en face de lui, hein, et il y a maintenant qu'il l'a voyé, hein, d'accord, bon. Et que là, c'est ça s'appelle l'altérité, l'autre, ici, c'est la même chose. Hein. Donc, par exemple, on se rend compte que l'être humain, il va passer son temps, du moment qu'il a créé, hein, la création, jusqu'à pas mal de siècles qui vont durer, à nier l'altérité dans tous les domaines, jusqu'à la catastrophe complète. Il va nier l'altérité entre l'homme et la femme. Ni altérité entre les frères, Caïn et Abel. D'accord ? Un n'acceptera pas la différence de l'autre. Adam n'acceptera pas la différence d'Ève. Caïn n'acceptera pas la différence d'Abel. Les enfants de Caïn n'accepteront pas la différence entre le ciel et la terre. Puisque les filles, vous rappelez ça, hein, d'accord. Donc ils vont se mélanger. Et ainsi de suite. Et jusqu'à Babel. La catastrophe des catastrophes. Où l'altérité éliminée dans tous les domaines mène à la fin. Et Dieu vient dire arrêtez ça. Et comment il va l'arrêter? Avec remettant l'altérité à travers les langues. Et jusqu'à Babel, on a une histoire dramatique qui va du refus de l'altérité à l'altérité à l'altérité, dans tous les domaines. C'est un peu ce qu'on revit aujourd'hui. C'est une façon, quoi. Avec la mondialisation et avec la
le genre.
Oui. Ça c'est une petite partie de tout le reste. Hein. C'est pas faux. C'est pas le c'est, y a, oui. Je reviens à mes moutons. Excusez-moi. La personne narcissique, donc, qui se manifeste par la négation de des autres. Les autres ne sont que des objets à sa disposition. Parce qu'il a un grand vide intérieur. Ça passe vite le temps. Il a un grand vide intérieur. Il ne sait pas le combler. Il ne pourra jamais le combler. Et donc, tout le monde est là pour servir à combler ce vide, ou plutôt à calmer la souffrance de ce vide. Vous l'invitez à une fête. Bon, comme tout le monde, il faut qu'il se fasse remarquer. Pour exister, quoi. Il va s'habiller pas comme tout le monde, boire un peu trop pour parler trop, il peut être que dans la première place. Vous avez rencontré ce gars-là, d'accord ? Un petit peu comme ça. Donc les autres ne sont pas des personnes, ce sont des objets, comme des cachets qu'il prend régulièrement, pour calmer son vide. Et comme son vide est vide, il ne pourra jamais le remplir, mais toute sa vie, il va chercher... calmer ce vide, cette souffrance de son vide. Il est entouré de vide, je dirais, quoi. Bien sûr qu'il va nier cela, bien sûr, quoi. Mais c'est son problème. Et comme il a besoin de personnes autour de lui, d'accord, vous allez le retrouver très souvent en poste de responsabilité. C'est logique, En tant que responsable, il s'entoure d'autres qui... Mais attention, il y a un turnover très fort là. Une fois consommé, tu es jeté. Une fois consommé, tu es jeté. C'est Kleenex, quoi. Donc ça. Vous pouvez rester dans la boîte. Je dis, mais vous ne serez plus. D'accord. En plus, je veux dire, il n'y a aucune réciprocité chez lui, puisqu'il n'y a pas d'altérité. Vous. Je ne sais pas comment dire ça. Vous faites une fête, l'anniversaire de. Moi, je sais pas. De mariage. D'accord. Vous l'invitez. C'est normal. La fête n'a pas pu se faire sans lui. Comment vous avez pu faire une fête sans l'inviter, lui? C'est autant dire que c'est un jour sans soleil. D'accord? Donc il viendra à la fête, mais jamais il vous invitera, lui, à sa fête. La réciprocité n'existe pas chez lui. Sauf s'il a un intérêt à ce que vous veniez pour calmer un peu sa souffrance. Si vous racontez que vous avez passé des vacances en Grèce, et que vous avez été trouvé formidable, tout ça, et que lui a été en Grèce, je veux dire, il aura trouvé le restaurant que vous n'avez pas trouvé, d'accord, Et si même vous avez mangé le même restaurant que lui, ça peut arriver, disons ça comme ça, voilà, donc, et que vous avez vraiment trouvé ça sympa et tout, ouais, mais lui, il avait un rapport au patron que vous n'avez pas eu, vous. Il est toujours différent et mieux que vous. Et vous ne pouvez servir que... à calmer son vide intérieur, quoi. Voilà.
Autrement dit, moins bien pour exister.
Comment?
Avoir eu les tuiles qu'on n'a pas eu, avoir été toujours.
Ah oui, mais peut-être, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand il se casse la jambe, c'est pas n'importe quoi chez lui. Attention, Je t'ai parlé de Paul tout à l'heure un peu, quoi. D'accord. C'est un cassage de jambe. Puis il connaissait le chirurgien, il connaissait l'infirmière, il connaissait tout le monde. Toi, tu connaissais pas, quoi. Tu vois? Bon, fais son portrait gentiment comme ça. Autrement dit, il n'a pas de limite entre lui et les autres. Les autres, c'est lui. Donc, il consomme. D'accord. Il n'a pas de limite en dedans et dehors, si c'est pareil. Hein, voilà. Hein, en fait, il a une haine, une grande haine, hein, contre... Hein, la blessure qu'il porte est la responsable de cette blessure. Hein, d'accord ? La responsable étant toujours les parents ici, hein, la mère. Hein, dans ce cas-là. Hein, d'accord ? Une haine. Hein, ce sentiment de base, c'est la haine. Alors, je ne confonds pas la haine avec la honte et tout cela. Hein, c'est pas le contraire de l'amour. C'est dans le sens qu'il ne peut pas aimer quelqu'un. Il ne peut pas aimer quelqu'un. Il peut que le mépriser. Au fond de lui-même, vous avez compris, hein ? Et même s'il vous invite, hein, et que vous soyez son meilleur copain, ou soyez son... pendant un temps, hein, d'accord, hein, c'est parce qu'il sent que en vous, il y a de la vie qui va calmer sa souffrance. Et quand il aura épuisé ce que vous êtes, hein, que ce soit socialement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, peu importe, eh bien... vous serez rejeté aussi sec. Parce que ce n'est pas l'amour qui le pousse à avoir des relations. C'est la haine de lui-même. Mais ça, il n'est pas conscient, vous avez compris. Hein,
hein. Il la nie absolument ou il la vide de motifs ?
Comment ?
Cette haine de lui-même, il la nie absolument ?
Oui, elle aurait tellement refoulé qu'elle est niée. Oui, 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 oui. D'accord. D'accord, oui, bien sûr. Hein. Autrement dit, la haine, c'est, elle est liée à ce qui ne trouve jamais un objet comblant, comme on dit. Tu vois ? Quelque chose qui le cale, au fond, quoi. Hein, voilà. Hein, comme ça.
Spirituel, là,
si comment
Dieu, la relation à Dieu avec l'amour de Dieu, c'est pas possible de
l'amour de Dieu, vas-y.
Enfin, je veux dire, il n'y a pas cette possibilité de l'accepter, de le vivre.
Mais je t'ai dit tout à l'heure que notre spirituel est déterminé par le psychologique. D'accord ? Je n'ai pas dit qu'il n'aime pas Dieu, tu vois, je veux dire. Mais c'est pareil. Tu vois ? Le salut n'est pas une question de bien faire ou pas bien faire des choses, tu vois. C'est une question de foi.
Oui.
D'accord ? Voilà. Hein ? Ça, la foi, on peut tout l'avoir.
Mais bon, l'amour de Dieu pour aimer les autres, c'est
mais façon. Non ! Non ! Tu vois ? Non ! Tu vois ? Je ne dis pas qu'il n'aime pas le Seigneur.
Non, non.
D'accord ? Hein ?
Il ne veut pas sa volonté.
Comment je peux te dire ça, moi? Même dans son amour du Seigneur, c'est des gens qui vont être constamment à la recherche de nouvelles choses. Tu vois? Nouvelles façons d'aimer, de vivre, de... Tu vois? De, hein? Voilà.
C'est beaucoup le caractère inépuisable de
oui.
Dieu qui l'épuise.
Oui. Ça, oui, tu vois? Oui. Et même ça, ça ne pourra pas le combler son histoire. Hein, il va toujours être avoir besoin, tu vois, voilà, de s'entourer de gens qui calment son. Hein,
voilà. Je vais rejoindre Apocati. L'apôtre Jean dit qu'en fait qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son frère.
Ouais.
Et on voit que ce personnage dont tu fais la description n'aime pas ses frères.
Mais, je te dis, il est malade, il a un problème, d'accord, hein. Et je peux te lire les textes, on va les lire si tu veux tout de suite. Hein. Et voilà, pour les gens difficiles. Hein. Tu as une Bible ?
Oui.
Alors, tu prends un Thessalonicien. Hein. Ça va dire. Un Thessalonicien. Hein. Ouais. Voilà, hein. Que je vous ai mis, un Thessaloniciens, je l'ai mis ici, plus ou moins. Alors, un Thessaloniciens, voilà où je l'ai mis. Excusez-moi, attends une seconde. 5:14. Nous vous exhortons, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. Le programme est beau, hein ? D'accord, hein ? C'est même de la poésie, ça fait redondant un petit peu, tu vois, comme la poésie. Sauf que Paul, ici, il emploie des mots très intéressants, tu vois, pour parler du programme à une église. Bon, le mot exhorter, déjà, c'est le même mot que paraclé. Donc, c'est le Saint-Esprit, le paraclé, vous le savez, d'accord, hein ? Voilà, donc, avec le Saint-Esprit, ici, il parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous devons faire avec le Saint-Esprit en nous, en tant que chrétiens ? D'accord ? Alors, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertir ceux qui vivent dans le désordre, ça n'a pas un ordre moral et sexuel. Ici, le désordre, c'est ceux qui ne sont pas à leur place avec le don qui est le leur. Ça, c'est un peu embêtant. Hein ? Parce que des gens qui vivent des places qui ne sont pas liées à leur don, il y en a pas mal. Et ça fait pas mal de désordre dans une église même. Hein, d'accord. Donc ceux qui vivent le désordre, c'est pas du tout ceux qui vivent avec trois maîtresses et deux... ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment ceux qui vivent, qui ne sont pas... C'est l'image d'un bateau dans lequel chaque pièce du bateau a sa place pour que le bateau marche. Et c'est traduit différemment dans notre texte, c'est-à-dire soyez parfaits. Hein, c'est pas soyez... d'accord. C'est soyez à votre place, avec votre don. Tout à l'heure, je parlais de Paul, tu vois, qui n'est pas à sa place avec son don, puisqu'il est il, tu vois. Alors Dieu lui trouve une autre place, hein, à Philippe, puisqu'il ne veut pas être à la bonne, il va ailleurs. Tu vois, d'accord, bon, ça c'est ça. Alors, consoler ceux qui sont abattus, alors ça c'est intéressant, hein. Voilà, donc signifie encourager, consoler. Et, je parle consoler, je parle abattu après, hein. Donc écoutez bien, consoler ça veut dire encourager, calmer, apaiser, adoucir. Jamais il est parlé de changer, ni de prier pour qu'il soit guéri. D'accord ? C'est encourager, calmer, apaiser, adoucir. Qui les abattus ? Alors là, c'est un mot très intéressant, parce que le mot abattu, c'est ceux qui ont une psyché faible. Ceux qui sont psychologiquement faibles. Et c'est un apax, c'est marqué que là dans la Bible, et c'est un mot très fort. Et ceux qui ont une psychologie faible. Donc ceux qui ont une psychologie faible, il faut les encourager. Les calmer, les apaiser, les adoucir. Là, Paul devait manquer deux fois ce jour-là. Il devait pas avoir le moral, je pense. Hein, mais bon, hein. Abattu. Voilà. Supporter les faibles signifie honorer et prendre soin. Supporter, ça veut dire ça. Honorer et prendre soin. Et les faibles, ça veut dire ceux qui sont vulnérables. Ceux qui manquent de vigueur. Ceux qui ont une infirmité psychologique. Mais après ça, c'est difficile après d'aller dire, tu vois ? Voilà. Je ne sais pas où c'est le texte, ça t'intéresse, hein ? Ce truc-là, hein ? Voilà. Donc moi, je trouve ça un passage formidable, ça. Tu vois ? Qui nous donne vraiment l'emploi de fonctionner. Hein ? Tant que j'ai dit, vous pouvez ajouter à ça qu'il n'y a aucune... on dit ça. Aucun exemple. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et je ne sais pas si c'est dans l'Ancien Testament, je ne sais pas où, mais d'accord, où le Seigneur, par ses prophètes, ou par le Seigneur lui-même, par les apôtres, et aurait guéri quelqu'un d'un problème psychologique. Il n'y a aucun exemple. Non, tu ne confonds pas ceux qui ont des problèmes spirituels, d'accord, avec ceux qui ont des problèmes psychologiques. Lui, il a un problème spirituel. Hein, il a quand même pas mal d'habitants chez lui. Hein, ça, c'est spirituel. La délivrance, ça existe aussi, hein, d'accord, hein. Peut-être pas autant qu'on le dit, mais ça existe aussi quand même. Hein, tu vois. Donc ça, c'est spirituel.
Il y a quelques cas psychotiques, non ?
Non. Non, c'est à chaque fois, tu verras qu'il y a un mauvais esprit qui va avec.
D'accord, oui. Parce que des fois,
Alors, le pervers n'a pas un mauvais esprit, hein, d'accord, ni le narcissique, ni l'anxieux, ni ce que tu veux, tu vois, d'accord. Ce sont des structures, ce que je dis, des structures fragiles. D'accord ? Voilà. Et c'est le rôle de l'Église, tu vois, hein ? Qu'est-ce qu'on dit quand on évangélise ? Hein ? Jésus l'a dit, il a dit, bon, venez à moi, vous puissiez ce que vous faites qui est chargé, tu vois. Hein, c'est pas les médecins qui ont besoin, c'est les malades. Eh ben oui, c'est pas étonnant qu'on ait beaucoup dans les églises aussi, hein, puisque c'est le message. Hein ? Voilà, c'est à nous de les accompagner comme ça, tu vois.
Ça s'explique le fait qu'on voit nulle part que Dieu montre qu'il ne guérira pas.
Oui, ça s'explique, oui.
D'accord.
Ça s'explique parce que ça, ta personnalité, c'est toi.
Ah,
je ne vais pas te changer.
Il ne va pas nous changer, d'accord.
Non, d'accord. Tu vois. c'est toi tel que tu es, voilà quoi, d'accord hein.
Ouais, mais ils sont tellement. Enfin, oui. Je parle avec des psychotiques, ils sont tellement oui. Malheureux dans leur.
Oui, 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 oui. Tu es éducatrice, c'est ça ouais. Hein? D'accord, oui. Non, mais oui, bien sûr qu'ils sont malheureux. Hein? Bien sûr qu'ils sont malheureux, tu vois. Et merci à la société qui essaie de faire quelque chose, tu vois. Il faut comprendre avant, qu'est-ce qu'on faisait avant, tu vois. Hein? Bon, on essaie de. C'est formidable ce que vous faites. Hein? D'essayer de, voilà, de rendre un peu plus la vie. Oui.
Oui, parce que du coup, si Dieu fait rien, vous, alors, qu'est-ce que vous.
Non, mais c'est pas Dieu fait rien. Hein? Il fait autre chose. Il fait autre chose. C'est pas Dieu fait rien, il fait autre chose. D'accord, pas ça. Hein, d'accord, hein? Il fait qu'il y a des gens comme toi, comme beaucoup de gens, qui ont cette compassion, ce don, ce que tu veux, pour accompagner tout ça. Tu vois, ça, c'est pas rien, tu veux dire. Hein? Voilà, c'est pas rien, quoi. Hein?
Dieu guérisse pas ceux qui veulent pas, ça ne dérange pas. Mais qu'il ne guérisse pas ceux qui souffrent à la limite, qui n'ont pas choisi d'être comme ça.
Non, je suis d'accord. Ça, je te dis, ça fait partie des grandes injustices de la vie. Hein? D'accord. Que moi, je ne pourrais pas t'expliquer. D'accord. Mais ça fait partie. Oui, 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 tu vois. Et... Pourtant, il y a quand même des beaux miracles dans la Bible, des résurrections de morts. Hein? Bon, d'accord, c'est pas rien, tu vois. Mais hein? Pas là, tu vois.
Par exemple, quelqu'un qui est anorexique.
Ouais, mais l'anorexie, c'est pas une structure de personne. Hein. C'est un symptôme d'un problème. D'accord. Donc c'est encore autre chose. Hein. La boulimie aussi est comme ça, d'accord. C'est un symptôme d'un problème qu'on connaît plus ou moins maintenant, quoi, tu vois, très, très, très fréquemment. Hein, et qui peut se soigner, tu vois. Mm. Ça va, j'ai bien dit mon. Moi, ça m'a interrogé. Moi, c'est mon autre travail. Et tu vois, et c'est... Et bien sûr, ça interroge ça. Bien sûr, ça pose des questions à toi. Hein? Est-ce que j'ai assez fait le portrait du narcissique? Hein? Je suis un être exceptionnel, plus méritant que les autres. Et la première place, elle est pour moi. Vous le voyez au supermarché. Il fait ses courses comme vous. Hein? Il arrive à la caisse. Il voit 10 personnes là-devant. Il passe devant, il dit, vous m'excusez, je suis pressé. Hein? J'ai quelque chose qui m'attend. Quoi, hein? Voilà. C'est normal pour lui. Il ne voit pas ça comme une... Hein? Il ne voit pas ça comme quelque chose d'anormal. Il est supérieur aux autres, il est différent des autres, et il est normal qu'il ne fasse pas la queue comme tout le monde. Et au feu rouge, qu'il se mette devant.
Mais
c'est normal.
Mais s'il y a un choc, s'il se fait péter la gueule vraiment par quelqu'un...
Eh bien, il dira, c'est un con. Voilà. Hein, voilà. T'as pas eu le mot péter la gueule. Donc j'ai répondu. D'accord. Sur le créneau. Et d'accord. Oui. Il dira, c'est taré, c'est un imbécile, ça c'est moi, toi, voilà, tu vois. Oui. Hein? D'accord. Très jaloux des réussites des autres, je l'ai dit. Hein? D'accord. Si votre patron est un peu comme ça, hein, n'achetez pas une voiture plus belle que la sienne. Hein? Sinon, vous êtes viré sec. Hein? Hein? La porte, elle est par là, quoi. Vous voyez, lui, dans sa voiture, vous arrivez avec la porte plus jolie que la sienne. Mais c'est insupportable, ça. Et en plus, il est ouvrier chez moi, celui-là. Hein? Allez. Il s'attend au compliment. Il s'attend à ce qu'on lui fasse, hein, comme j'ai dit, mais il ne répondra jamais. Hein? Il ne rendra jamais l'appareil. Voilà. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui pour vivre avec lui? Vous savez qu'il y a trois choses qui font fonctionner les gens. Il y a les sentiments, les croyances et les comportements. Hein? Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Là. Il faut mettre croyances, sentiments et comportements. Le vrai ordre, c'est celui-là. Hein? Ça n'a pas d'importance. Et quand vous êtes, on le verra en parlant de personnes difficiles la prochaine fois, avec une personne difficile... Il y a toujours trois portes d'entrée pour travailler avec lui, pour être avec lui, pour essayer de l'aider. Soit on travaille les sentiments, soit on travaille les croyances, soit on travaille ses comportements. Je dis bien les trois portes. Hein. Il y a trois portes. Hein. La porte des sentiments, la porte des croyances, la porte des comportements, peu importe l'ordre, hein, ici. Bon, donc, dans ces trois portes, et selon les personnalités difficiles, vous avez une porte qu'il ne faut pas toucher. Si vous la touchez, il décompense. Il ne faut pas l'ouvrir. Une porte qui est ouverte par laquelle vous pouvez entrer et une porte par laquelle vous pouvez entrer pour ouvrir l'autre. J'expliquais bien la chose comme ça ? D'accord ? Et ça change pour tous les...
Ah, d'accord. J'attendais la suite. Mais d'accord, ça change.
Pour chaque personnalité difficile, ça change. D'accord ? Ça veut dire que tu vas te rendre compte que... on verra ça la prochaine fois, tu verras. Hein, que très souvent, nous, on irait vers la porte qu'il ne faut pas ouvrir. Et justement, on se heurte à une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Je ne dis pas pour le changer, pour essayer de vivre avec lui, tu as compris ? Non, non, pas pour changer, pour vivre avec lui. Hein. D'accord ? Par exemple, le narcissique. D'accord ? La porte interdite, c'est les sentiments. Il est imperméable aux sentiments. Tu lui dis, ça me fait de la peine ton comportement. Oh, je ne l'ai pas fait exprès. Puis il va continuer. Il va continuer. Parce que cette porte-là, elle est fermée. Tu vois ? La porte d'entrée, d'accord ? C'est les croyances. Le faire évoluer un petit peu sur ses croyances. Que vous existez, vous êtes là, que vous êtes quelqu'un qui souffre. Hein, quel sentiment aussi. Et puis, ce qu'il faudrait arriver un petit peu à avancer, d'accord, c'est sur son comportement, quoi. Qu'il arrive à avoir un comportement un peu moins narcissique. Je dis bien les trois choses, hein. Mais vous avez vu que nous, si on aimerait dire, mais attends, fais attention, tu me fais souffrir. Tu marches sur les pieds, tu ne bois pas, ça me fait souffrir. Et ça, il est imperméable à ça. Et pourtant, c'est la porte qu'on voudrait, hein, un petit peu ouvrir, quoi.
Il prend pas plaisir d'en faire souffrir l'autre. C'est juste que lui, ce qui l'intéresse, c'est lui.
Non, il prend pas plaisir. Hein. Mais il souffre dans le sens... Mais tu dis, il a refoulé sa souffrance. Hein. D'accord ? Oui, il souffre, oui. Il a besoin de ça pour exister, pour ne pas mourir, pour ne pas... Tu vois, hein. La pire des punitions, c'est l'enfermer d'une chambre tout seul. Hein, tu vois, hein. Sans voir personne, quoi. Sans téléphone, en plus. Mais vous en avez rencontré, il y a des gens comme ça, un petit peu. Je vous l'ai décrit, mais vous l'avez vu un peu, hein. Il faut que ce signale toujours. Hein. Si c'est un chrétien, il faudra un amen plus fort que les autres. Il dira, il est là, ça y est, bon, il est là, quoi. Hein, voilà. Moi, j'en connais quelques-uns. Hein. Je vous dis, en principe, ils occupent des places un petit peu de responsabilité. Et pour ça, les églises sont bonnes pour recruter les narcissiques, hein, parce qu'il y a de la place. Hein, aïe, aïe. Bon, alors, on se voit trois fois, hein. D'accord, je parle comme ça, excusez-moi. Est-ce que jusque-là, c'est bien ce que je vais dire, hein? Alors, je vais juste introduire pour dire qu'il faut différencier, maintenant, on en parlera peut-être plus ou mieux, hein, différencier absolument les personnalités difficiles des personnalités perverses. D'accord ? Ça n'a rien à voir. Si Paul, dans Thessaloniciens, il nous dit de prendre soin des personnalités difficiles parce qu'elles souffrent, hein, parce qu'elles souffrent. Elles sont conscientes de souffrir la plupart du temps, comme on a dit, hein, une forme de souffrir. Hein. Pour ce qui est du pervers narcissique, il nous dira de ôter au milieu de vous le méchant. Alors, si vous voulez avoir une définition du pervers narcissique, vous prenez votre Bible et vous lisez tous les textes qui parlent du méchant. Le méchant, c'est dans le langage biblique le pervers narcissique. Et il y en a. J'en ai fait une liste et ils ne sont pas tous. Hein? D'accord ? Un des plus beaux textes, j'allais dire, c'est Proverbe 22:5. Si quelqu'un là peut le lire. Voilà, il y a un pasteur qui a une Bible encore. Ça existe ? On peut en trouver encore aujourd'hui, non ? Bon. Proverbe 22:5.
Des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme faux. Celui qui veille sur lui-même survivra.
Voilà, alors vas-y. T'as l'homme fourbe, toi. Hein. C'est quelle traduction à ça ? Français courant ?
L'homme fourbe.
J'ai la Darby qui dit. Il y a des épines, des pièges sur la voie du pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne.
Voilà. D'autres, le méchant, tu vois, hein? D'accord. C'est le pervers. D'accord. Vas-y, alors ça, ça va pas être la tenue, quand même, cette histoire. Allez, vas-y, relis-le. Doucement.
Il y a des épines, des pièges sur la voie du pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne.
Voilà. Hein? Ça, c'est clair comme programme. Et Paul à Timothée dira, en parlant par exemple d'Alexandre, qui est un pervers, d'accord, il lui dit, il m'a fait beaucoup de mal, D'accord. Et il dit, Dieu lui rendra. Paul va loin. Hein. Il dit pas, bon, ça va se régler comme ça, l'amiable, cette histoire. Hein. Dieu lui rendra le mal qu'il a fait. Hein. Et, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a un problème, Paul.
Oui, il a un problème, peut-être il a un problème. Hein. Et il va plus loin, il dit à Timothée, qui la voit là-bas, il dit, toi, fais attention à lui. Méfie-toi de lui. Il y a des dizaines de références dans la Bible. D'accord? Là-dessus. Et toutes vont dans le même sens, et toujours dans le même sens. Bon, pour dire, je disais que le méchant est vraiment l'image du pervers. Hein, dans la Bible. Chaque fois qu'il est parlé, c'est le pervers. Quoi. Et, des fois, c'est marqué. Alors, ne confondons pas, plutôt ce que je veux dire, c'est ça. Ne confondons pas le pervers avec, d'accord, le pécheur, hein, à la ligne, pécheur ordinaire, je veux dire, vous et moi, d'accord, hein, qui voilà, hein, qui est stupide, dit le texte, hein, dans le proverbe, voilà, bon, hein. Et puis l'insensé, qui est l'image du non-croyant, l'insensé dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, d'accord, ça c'est l'agnostique, bon, il a perdu un peu la raison, quoi, hein. Papa, il n'est pas fou, vous avez compris, attention, hein. Hein, c'est bien, hein, attention, hein. Et puis il y a le méchant, qui lui est vraiment, hein, le méchant ou le moqueur, qui est vraiment le pervers. Comment ? Les trois. Bon, tu as le pécheur ordinaire, hein, qui est tenté, qui convoite, qui... voilà, hein, qui, de temps en temps, se fait avoir, de temps en temps, il va joyeusement aussi, quoi. Hein, voilà, hein, comme disait Luther, péché, mais péché joyeusement, quoi. Hein. Oui, mais ça, c'est pas bête, entre parenthèses. Hein, parce que c'est pas possible. C'est pas possible de faire. Donc, ça, d'accord, hein, parce qu'il voit le symptôme, il interdit la chose, quoi. Hein. Mais bon, donc tu vois, le péché ordinaire, tu vois, d'accord, hein, hein. Bon, le névrosé de base, le bordel est de base, d'accord. Puis tu as l'insensé, donc qui, lui, est dans la négation du Créateur. Voilà, agnostique, d'accord, voilà. Hein, voilà, hein. Pour lui, tout est arrivé n'importe comment, enfin, on ne sait pas comment, mais comment c'est arrivé comme ça, puis ça partira comme ça, puis c'est tout, hein. Bon, et puis tu as le méchant, ou le moqueur, hein, qui est vraiment, hein, voilà. La personne qui à un moment donné choisit de ne pas se plier à la réalité. Qui est éducatrice, tu as appris ça toi. Tu as le principe du plaisir. D'accord? D'accord? Le principe du plaisir qui vient en premier dès la naissance et avant la naissance. Hein? Il est présent dans le sein maternel celui-là. Hein? Bon, d'accord? Et c'est que après ta naissance, tu vas rencontrer la réalité. Qui va être l'autre, hein? Et ainsi de suite. Bon, ça c'est le principe de réalité. Il se met en place beaucoup plus tard. Hein. D'accord? Bien. Eh bien, tu vas être toujours tiraillé entre les deux. D'accord? Hein. Et tu vas trouver ici ce qu'on appelle, hein, le principe de constance. Bon, voilà, ici. C'est à un moment donné, vers 18 ans, à peu près, tu as construit ta vie, hein, et tu sais faire la part entre ce qui est la réalité, encore une fois les autres, d'accord, et ceux qui sont différents de toi, et ton principe de plaisir à toi. C'est bien quand tu vas à table, hein, tu attends que tout le monde soit servi pour manger. D'accord? Quand tu es petit, tu manges d'abord et tu penses après. D'accord? Hein? D'accord? Et si même tu as, hein, ça a sublimé ton principe de réalité, tu fais la prière. Parce que tu l'as sublimé. Voilà. Hein? C'est tout le même principe de réalité. D'accord? Et tu t'es introduit de tout ordre dans ton histoire. Très bien. Hein? Voilà. La réalité. Voilà. D'accord? Et puis tu as construit ce principe de constance qui fait que dans la vie, tu n'es pas tout le temps en train de tirer ton plaisir à la réalité, ton plaisir à choisir lui ou l'autre. Ça, c'est le névrosé. Il est comme ça, lui. Tu vois, il fonctionne bien. Hein, avec les petits bonnets comme j'ai dit. Tandis que le narcissique, il est ici, tu vois. Hein, il est bien un narcissique, il est là complètement. Ça, ça n'existe plus.
Mais il sait très bien ce qu'est la réalité.
Oui, justement, il sait très bien ce qu'est la réalité. Et son rapport à la réalité est un rapport de vouloir tuer la réalité. Tu vois, de ne pas la nier, c'est pas la nier. C'est la faire souffrir, en fait. Même. C'est même pas la tuer.
D'où le méchant.
La faire souffrir.
D'où le méchant.
Oui, d'où le méchant. Oui. Son but dans la vie, c'est terrible, je vous dis là. Et moi, je comprends, ça fait longtemps que je travaille avec ces gens-là, quoi, franchement. Ça fait 20 ans, hein, tu vois, je veux dire. Hein, j'ai même fait ça sur les abus spirituels, tu vois, là-dessus. Je parlais de ça. Hein,
donc, vous ne travaillez pas forcément directement avec eux, plus avec leurs victimes.
Tu vois. Mais tu ne travailles pas avec eux.
Ah ouais, c'est ça. C'est ce que je dis, ouais. Hein,
tu travailles avec les victimes. Bah, oui. D'accord. Mais ce qui est intéressant avec eux, je veux dire, c'est qu'ils fonctionnent toujours pareil. Ils ont un fonctionnement qu'on connaît et qui va être toujours, toujours, toujours reproduit. On en reparlera la prochaine fois, ça, tu verras. Hein. D'accord. Donc ça veut dire qu'on sait comment travailler. D'accord. Au lieu de courir derrière eux, il faut les précéder. Et comme ils sont toujours, j'allais dire, C'est presque décevant, je disais tout à l'heure. Hein. D'accord ? C'est qu'il fonctionne toujours pas. Vraiment, c'est
réglé.
C'est réglé. D'accord ? Et dès que tu connais la mécanique, comme aux échecs. Hein. Si tu sais celui qui a pas de toi comment il va jouer avant que tu joues, toi, tu es trois coups d'avance et tu as gagné vite fait. Quoi. Tu vois ? Voilà. Qu'est-ce que je disais avant ça ? Excusez-moi. Ah oui, il faut parler de poste. Donc lui, donc, il est là. Et son plaisir, c'est de choisir une victime, ou deux ou trois. Tu vois, et comme les araignées, tu sais, ils tissent la toile d'araignée, tu vois, et il y a une mouche qui passe. Elle rentre dans la toile d'araignée. La mouche ne sait pas qu'il y a la toile d'araignée. Elle n'est pas responsable de la toile d'araignée, la mouche. D'accord ? Elle se fait prendre par la toile d'araignée. Mais l'araignée ne tue pas la mouche. D'accord ? Elle la ligote. D'accord ? Et elle suce sa vie petit à petit qu'elle meurt. C'est exactement ça le pervers narcissique. Il cherche une victime. Il tisse sa toile. On verra ça la prochaine fois, hein, comment il fait. Il tisse sa toile, vraiment. Mais toi, tu ne le sais pas. Et tu passes dans la toile. Et tu crois que c'est un obstacle que tu vas traverser, qui va te venir te libérer. Que l'araignée va te libérer, puisque la toile était là, et qu'elle ne va pas être là. Or, cette toile était placée. Et lui, il savait que tu allais passer là. Il savait que la mouche allait passer là. Il a mis la toile exprès pour te piéger. Et ça, tout son plaisir, il est entre le moment où il commence à imaginer la toile et le moment où tu vas arriver à te mettre dans la toile. Et là, il jouit. Vraiment, hein ? Je parle de jouissance. Hein ? De te piéger. Donc, quelqu'un de normal, comme toi, comme moi, comme nous ici, ne peut pas imaginer un pervers. Sinon, ça veut dire que tu es pervers.
Et ils sont combien de pourcents ?
Je n'ai pas de pourcentage, on ne sait pas, mais il y en a pas mal, quand même, quelques-uns, quoi. Tu vois,
hein ?
Je crois que c'est autour de 1%. Mais bon, ça peut... Hein, mais c'est quand même pas mal, tu vois. Parce qu'il n'a jamais une seule victime. Hein. Tu vois, il a toujours plusieurs toiles d'araignée qui sont prêtes. Hein, hein, d'accord ? Plus ou moins bien tissées, d'accord ? Comme ça, il n'est jamais en manque. Il ne peut pas être en manque. Parce que lui, son plaisir, c'est d'enfreindre les lois de Dieu. Et les lois des hommes, bien sûr, par la même occasion. Hein. C'est ça, son plaisir. Il jouit de ce qu'il va enfreindre la loi. La loi de Dieu, c'est quoi ? C'est le respect de l'autre. Hein ? C'est ça, la loi de Dieu. Tu respecteras ton prochain, enfin, tu aimeras, c'est pareil, hein ? Ton prochain qu'on t'aime. Et lui, son plaisir, c'est de tuer son prochain.
Et il pense
à petit feu.
Il pense jamais qu'il pourra se faire avoir.
Non, non parce qu'il se pense plus intelligent que toi, puisqu'il tisse la toile dans laquelle tu vas tomber. Donc, il est plus intelligent que toi. Et en plus, on est déjà très intelligent, en principe. Mm. Tu vois ? Très malin. Très intelligent, pas très malin, c'est pas juste. Très rusé. Intelligent, hein,
rusé,
voilà. Hein, qui connaissent toutes les ficelles, parce que plus je vais. Si tu étais normal, toi, hein, fais toi, tu étais normal, je dirais. Quand tu verrais le mur, tu dirais, j'arrête là, je vais pas dans le mur, mince. Lui, il dit, je vais jouer parce que ce mur, je vais me le casser. Je vais le traverser, ce mur. Et le mur de la mort, et le mur des murs, mince. Même celui-là, il joue avec.
C'est dans les films qui meurent en rigolant. Quoi.
Oui. C'est le brigand sur la croix qui meurt en insultant Jésus. T'as rendu compte ? L'autre, il se repent, d'accord ? Et l'autre, il insulte Jésus. Il est jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Il est dans la négation, hein, je vais moquer de la mort.
Et Jésus n'a pas transformé sa personnalité.
Non.
Mais il a pardonné à l'autre, par contre. Hein.
Mais comment comprendre que cette personne puisse avoir le salut, quoi, quelque part ?
Ah, mais ça, c'est pas mon problème à moi. Hein. Parce que Jésus raconte une histoire intéressante, d'accord ? Qu'il faudrait bien se rappeler, tu vois. Hein. C'est que les disciples, ils ont voulu un jour arracher le bon grain et le mauvais grain. Qui est converti, qui n'est pas converti. Tu vois ? Qui a son certificat de baptême et qui ne l'a pas. Hein, ben, à l'eau, à bonne température. Hein, hein, parce que la température de l'eau, ça compte aussi. Hein, d'accord ? Pour la sanctification. Hein, d'accord ? Bon, donc. Puis la quantité d'eau aussi. Hein, d'accord ? Combien d'eau dessus de la tête. Hein. Bon, donc, ils veulent trier tout ça. Quoi, hein, d'accord ? Et Jésus leur dit quoi ? Surtout pas ! Laissez faire les anges.
D'accord, moi je ne parle pas de faire la distinction entre ceux qui le sont et qui ne le sont pas. Mais maintenant, ceux qui le sont, qui sont qui appartiennent à cette catégorie de personnes, forcément n'hériteront pas du royaume.
Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas juge de personne. D'accord ? Franchement,
ça ne me regarde pas.
Ça ne me regarde pas. Mais
en fait, le problème, c'est que ça ne me regarde
pas. Mais je dis une chose, quand même. D'accord ? C'est pas à moi de les juger, tu vois, parce que si je les juge, je me mets en juge, j'ai pas envie d'être en juge, parce que ça ne nous est pas demandé, tu vois. Moi, ce que je sais, c'est que le royaume de Dieu, et ça, c'est important, le royaume de Dieu est un royaume de justice. D'accord ? De justice. Attends, mais c'est... Je dis ici, il y a de la lumière. Je ne sais pas ce que c'est que les ténèbres. Parce que là où je suis, il y a de la lumière. Si tu n'aimes pas la lumière, tu vas où tu veux. Mais c'est toi qui iras. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé quelque part. D'accord ? Hein ? Donc, on n'a pas à les juger. Parce que si tu les juges, tu empêches, je dirais, vraiment Dieu de faire son boulot. On n'a pas à les juger. Par contre, j'essaie pour te protéger. Par contre, tu as le droit et le devoir de dire que ces gens-là n'ont pas de place dans l'Église. Même pas un strapontin derrière.
Parce qu'ils peuvent détruire d'autres personnes.
Parce qu'ils, c'est pas, ils vont. Ils sont en train de détruire. Et ils ne viennent que pour ça. Ce sont des prédateurs. Ce sont des loups transformés en moutons. Tu sais, caché un mouton, dit le texte de Jean. Hein, d'accord ?
Mais on dirait alors qu'il y a deux types d'humains. Il y a les humains, moi je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule sorte, c'est celle-ci. Le libre arbitre, éventuellement ils sont traqués par la vie ou quoi.
Oui.
Et alors il y a une deuxième sorte où eux, la fatalité, il y a une sorte de destin.
Non, il n'y a pas de destin, ils ont choisi. Ils ont choisi leur vie. Hein.
Ils ont choisi. Ah, ça c'est les pervers aussi, c'est qu'un choix.
C'est un choix, tout le monde te dira ça. C'est jamais classé, ni dans la Bible, ni chez les psys, comme une maladie.
D'accord, donc c'est pas une pathologie.
Non. Dans le sens de maladie, d'accord, je dirais. Oui, bon, monsieur, pathologie, bien sûr, je dirais, mais pas dans le sens qu'on a vu ici. Hein. D'accord ?
Dans un mariage, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, quand il y a un pervers narcissique, c'est-à-dire qu'un des deux est condamné à mourir. Donc, il a intérêt à partir vite. Hein ? Le seul conseil qu'il peut donner à quelqu'un qui vient avec un pervers narcissique, parle le plus vite possible. Voilà. Organise, attends, quand je dis ça, hein, ça veut dire qu'il faut organiser les choses, t'as compris, hein ?
Ou on peut le mettre en prison.
Il y a la loi.
Oui, il y a la loi. Si passe à l'acte, oui. D'accord, il y a le procès, il y a tout. D'accord, mais ça va aller. Oh là là, j'en reparle la prochaine fois. Hein. Ça va aller graduant les choses, tu vois. Ça va commencer par les violences verbales, psychologiques, puis physiques, puis tout ce que tu veux. Hein. Mais donc, la seule solution, d'accord. Mais le problème qu'on a, je veux dire, avec eux, hein, c'est que, un, nous croyons qu'il va changer. Mais je vous en parlerai la prochaine fois, ça, d'accord, hein. Tant que nous croyons qu'il va changer, nous le supportons. Et comme il a un comportement qui fait croire qu'il va changer, bête comme on est, ou ignorant comme on est, plutôt, ça sera plus gentil, on le croit. Tu vois ? Et on appelle ça la résurgence amoureuse, vous verrez ça la prochaine fois. D'accord ? Comme ça. Hein ? La résurgence amoureuse s'appelle. Hein ? D'accord ? Donc, j'ai mal fait. Et c'est pas vrai, il ne pense pas. Il pense juste que. Hein, il remet en place notre piège. Hein ? Bon, mais ça, on verra. Hein ? Donc, on croit qu'il va changer. Donc, hein, on patiente, on prie, on jeûne, on fait tout ça. D'accord ? Hein ? Et en fait, la seule prière qu'il faut avoir, c'est de dire Seigneur, hein, tu reprends là où tu veux, mais plus ici. Quoi, hein ? Et nous, on doit se protéger de lui. Voilà. Et la seconde chose qu'on a, c'est qu'il connaît très bien les textes bibliques, hein, mieux que vous, pour tout vous faire croire que vous devez le garder. D'accord ? Hein ? Alors qu'il ne faut pas, si le responsable ne touchera pas loin de l'Éternel, hein, enfin, toutes les bêtises de la terre, tu les as là-dedans, quoi, hein, parce qu'il connaît, il manipule les textes d'une manière extraordinaire. Quoi. Et comme c'est quelqu'un d'intelligent, il le fait bien. Il faut que la proie ne meure pas.
Sémantique, vous aviez parlé de pervers et la pervers narcissique. Est-ce que tous les pervers sont pervers narcissiques ou est-ce que c'est
non,
juste
non,
une catégorie de pervers?
Non, il y a d'autres formes de pervers qui sont pas embêtants, quoi. D'accord, hein,
d'accord.
Ah, c'est le pire pervers narcissique, c'est le plus dangereux.
Oui, c'est le plus dangereux.
Hein, c'est pas quelque chose de récent parce que ça a l'air d'être un peu à la mode dans l'actualité, le terme.
C'est qu'on en parle parce qu'avant on n'en parlait pas. D'accord, on n'en parlait pas. La Bible, c'est pas aujourd'hui qui a été écrite, hein, sauf qu'on ne la lisait jamais ces textes avant. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un commentaire ancien sur ces textes de Paul, des Thessaloniciens par exemple, toi, ou de. On n'en parlait pas. On disait c'est le méchant, voilà, c'est bon, c'est le méchant, c'est toi.
Il n'est pas gentil.
Il n'est pas gentil, si tu veux. mais c'est quand on a commencé Récamier, justement, j'ai posé porter le livre. C'est Récamier qui, le premier, va commencer à parler des pervers narcissiques. Il faut le lire, ça. D'accord ? Après, ça c'est la psychologie de base. Après, tu as Eric Goyen qui va faire un livre, qui va donner une loi. Hein, que vous connaissez, hein. Donc, mais c'est les premiers qui en parlent, tu vois, parce que c'est l'avancement des connaissances psychologiques. Je vous ai présenté celui-là pour vous présenter aussi, qui est donc la psychologie et psychopathologie. Hein, donc c'est chez PUF, donc c'est un livre universitaire de licence ou de master, je ne sais plus, peu importe, maintenant, qui présente tout le. Je vous ai dit là, moi, hein, en 10 minutes. Hein. D'accord, voilà. Hein.
Vous avez vachement bien expliqué et je trouve ça super. C'est que je
merci.
Je vois ça. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que dans, alors ça c'est bien parce que là sur le papier là c'est super clair. Maintenant dans la vraie vie, il faut rajouter le côté spirituel. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre des esprits dans les gens, neutraliser des esprits.
Ça complique le schéma. Tu comprends que les spiritualités ne seront pas les mêmes.
Les quoi, pardon?
Les spiritualités ne seront pas les mêmes. Non.
Ah oui. C'est ça. Donc, mais déjà, ça va encore, parce que là, c'est clair, je vois, c'est cool. Mais si je mets ça dans la réalité, c'est plus complexe.
Ça, c'est le côté psychologique.
Voilà, on s'attaque à ça.
Oui, c'est le côté spirituel.
Il y a ça aussi, donc ça compliquera.
Donc, ça veut dire qu'il te faut connaître les structures, ici, psychologiques, donc, celle-là, que tu connais, la psychoaffective, et les structures spirituelles.
Ouais.
Tu vois ?
Oui, voilà. Pour vraiment avoir le schéma.
Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des étapes dans la spiritualité, quelle que soit la spiritualité, que ce soit bouddhiste, musulmane ou chrétienne, donc il y a les mêmes étapes. Le problème qui change, c'est le contenu de l'étape. D'accord ? Toi, tu vas manger tous les soirs, tu manges tous les soirs parce que tu as la capacité de manger. Donc, tu manges des bonnes choses, des mauvaises choses, ça c'est autre chose. Voilà. Mais donc, la structure de l'étape spirituelle, il y en a 6, sont connues. Dans toutes les... Il faut les faire vivre, tu vois. On peut en parler la dernière fois, si tu veux ça. Moi, j'aimerais bien en parler ça la dernière fois. Quoi. La troisième fois de ça. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire que, comme ici, tu grandis psychologiquement. Si tu ne passes pas l'étape d'après, tu fais une fixation, on appelle là. Tu restes là et tu restes toute ta vie à l'endroit où tu as été fixé. C'est-à-dire, bon, ici, bon, comme ça. D'accord ? Et puis, aussi. Quoi. Donc, tu peux rester au niveau des pierres, au niveau anal, ce que tu veux. Quoi. Et tu auras après des personnalités qui vont développer à partir de ça. Hein. Mais ici, c'est pareil, tu as des structures et chaque étape se termine par une crise et qui est là pour trier ce que tu as construit ici. Et tu vas continuer ici à continuer à bâtir ce que tu as là, ainsi de suite. Oui.
Les étapes dont tu parles,
spirituelles,
sont... non, de l'autre.
Oui.
sont connues.
Oui.
Sont connues. Et visiblement, en fait, on n'est pas enseigné là-dessus, on n'est pas, on connaît pas ce truc-là. Donc, comment savoir qu'en fait, qu'on passe l'étape, qu'on va passer l'étape Donc, en fait, il y a.
En tant que parent.
Si ça fait partie de la construction d'un homme, d'une femme, d'un être humain, il faut connaître les étapes pour pouvoir les passer quelque part.
Ben, il faudrait que les parents les connaissent pour aider leurs enfants à les passer. Ça, je suis d'accord avec toi.
Si on joue au plus haut but à 50 ans, par exemple, c'est une...
Donc, admettons qu'en fait, que, bon, maintenant, on s'informe, on connaît les étapes, etc. Pourquoi tu as dit au départ qu'en fait que ces 33%-là, ça va augmenter ?
Parce qu'on ne les respecte pas. Va pas au supermarché, regarde une mère de famille et son gamin, son petit bout de chou. Elle est, au lieu de lui dire « tu ne touches pas ça parce que tu ne touches pas point à la ligne », elle est en train de le, pas de le convaincre, de le séduire pour qu'il obéisse. Ouais. Tu vois la différence ? À base des deux torgnoles que tu recevais. C'est vieux ça, hein. Mais ça arrivait quand même.
Hein.
C'était pas génial. Hein. T'as, j'ai pas dit que c'était vrai, c'était bon.
Ah, ouais,
non, j'ai pas dit que c'était lamentable. Ensuite, bon, on a dit ça, c'est pas bon. Apprendre à poser des limites tranquillement aux gens, tout ça, d'accord. Bon, ça, mais tu peux pas empêcher qu'il y a des gens qui ne veulent pas poser des limites à leurs enfants et qui cherchent à avoir, et c'est le problème d'aujourd'hui, de la séduction. Pour que l'enfant adhère à ce que les parents lui demandent. Là, je dis, ça on le sait. Eh bien, ça, quand tu vois ça, tu sais ce qui va se produire. Hein, t'as besoin de prophète pour ça. Tu vois ? Comme quand tu mets deux torgnoles, tu savais ce qui allait se produire, des belles névroses, d'accord ? Hein, ça, c'était écrit d'avance, d'accord ? D'angoisse en particulier, et ça, tu le gardes toute ta vie. Bon, pour, et maintenant, eh bien voilà, on sait que c'est comme ça, voilà, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait ça. Mais.
Et l'individualisme actuellement ?
Oui.
Produit le narcissisme.
Ouais. C'est ce que disent tous les bouquins.
Oui, le individualisme produit ça. Tu vois. On, pourquoi ? J'arrête après. D'accord. Parce qu'on pourrait parler des heures. Pourquoi ? Parce qu'on est passé du devoir au droit et que le droit ne peut exister que s'il y a la justice. Si à côté du droit, et c'est, donc aujourd'hui on était dans le droit, c'est très bien, quoi, mais on n'a pas mis la justice avec le droit. Donc le droit de tous est devenu le droit des plus forts. Donc, c'est pas anarchique. Oh non. Non, non, c'est pas anarchique. C'est le droit des plus forts. L'anarchie, c'est que il n'y a pas d'ordre du tout, quoi, d'accord, hein. Là, c'est que c'est le droit, on est venu, puisqu'il n'y a pas de justice, on est dans le droit du plus fort aujourd'hui. Et c'est... D'accord, tu vois, c'est ça, l'individualisme. C'est le droit du plus fort.
Donc si c'est pas de justice, oui, le pervers narcissique remporte à tous les
coups. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas de justice.
Oui, donc c'est
d'accord fort, c'est... Alors, il faut quand même se réjouir que les lois... Et prenant conscience de tout ça, sont en train de s'élaborer, hein, même si c'est un peu lourd, même si c'est tout ça. Aujourd'hui, un père narcissique peut aller en prison, hein, s'il fait trop de bêtises, d'accord, hein. Mais avant, pas du tout. Hein.
Non,
il faut essayer comme il voulait. Hein.
On vide les prisons maintenant.
Non, mais là, ça, c'est un autre problème, ça. Hein. Après, je dis en prison, t'as compris. Je dis,
après, ce qui va être résolu en suivant vos formations, c'est que nous, on sera capable de voir quelqu'un hyper narcissique, donc il n'y a pas d'espoir, et quelqu'un qui est dans l'état limite et qui a juste un esprit qui peut être chassé.
C'est la différence que tu vas faire entre un délinquant et un pervers.
D'accord.
C'est que les deux vont faire le même acte.
Oui, voilà.
Mais le délinquant, confronté à la loi, tu vois, à la police, ou que tu veux, à la loi, va reconnaître. La loi va le... Ouais. Hein, il va dire, il va s'écrouler, j'allais dire, tu vois, il va demander pardon, bon, d'accord. Tandis que le pervers, lui, il va persister, nier, avancer, tu vois, hein, jusqu'à faire courber la loi. Hein, voilà. Il y a des cas célèbres comme ça, qui vont même jusqu'à faire changer la loi pour pouvoir continuer. Quoi, hein. Il y en a actuellement comme ça.
Une question, en tant que chrétien et en même temps donc psychologue, et à vous entendre souvent dire vous êtes comme ça, si vous êtes dans telle situation, c'est pour toute la vie, si vous êtes là, c'est pour toute la vie, il y a un peu de fatalité, enfin bon, c'est comme ça.
Non, c'est pas la fatalité.
Juste,
c'est...
Du coup, comment est-ce que vous avez le moral en tant que chrétien?
Parce que ça a été avant que je connaissais les choses, ça a toujours été ça. Hein, plus ou moins, j'ai dit, il y a toujours eu deux grandes catégories là. Hein, je ne sais pas comment te dire ça, parce que je reviens à Thessaloniciens, parce qu'il y a un boulot à faire pour soutenir, pour consoler, pour comprendre, pour accompagner. Et ça, c'est le boulot de l'Église. Tu vois? Ça, c'est le boulot de l'Église. Voilà.
Et c'est la preuve que vous êtes névrosé, puisque vous acceptez la réalité.
Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi.
Hein,
et que si j'étais dans un discours, t'as compris, hein, du tout ou rien. Tu les vois, ceux-là, hein, et tout, excuse-moi, hein, d'accord, ils font une mission d'évangélisation, une expo biblique, que tu veux, on aura 10 000 convertis. Alors là, tu vois, putain, d'accord, arrête, hein. T'es pas dans la réalité. Voilà, vas-y.
Non, mais du coup, le pervers narcissique, on disait tout à l'heure qu'il fallait pas qu'il reste dans l'église, il fallait qu'on...
À mon avis, c'est pas sa place. Hein.
Mais c'est du style, je veux dire, revenir par la fenêtre si on chasse par la porte.
C'est parce que, s'il y avait, enfin, on en reparle la prochaine fois, mais s'il y a bloc, voilà, tu vois. S'il y a connaissance et bloc. Sauf que, je tenais trois mots pour parler du père narcissique, puis j'arrête vraiment là cette fois-ci, hein, et on continue après. Et trois mots qui symbolisent tout. Voilà, c'est un peu lacanien, mais tu vas comprendre. Hein. C'est un, le père narcissique salit. Du verbe salir. D'accord. Il salit ses victimes. D'accord. Et il salit ceux qui veulent aider les victimes. Ça, c'est clair. Si tu veux aider une victime, tu as intérêt à te protéger, à fonctionner par association, à être blindé sur la loi et tout, quoi, tu vois. Parce qu'il va te salir, c'est clair. Hein, il va projeter, il va te salir, hein, d'accord. Si tu aides une femme qui est battue par un père narcissique, il va dire que c'est parce que tu couches avec elle, hein, d'accord, que tu as déjà couché avec elle. Ça, c'est clair, tu vois. Bon, donc il salit, premier point. Deuxième point, il salit du verbe allier. D'accord. Il va s'allier des gens contre une personne. Et tu vas le jeter par la fenêtre, là où tu sortais par la porte. Il va garder des alliances dans le groupe, pour continuer à ennuyer le groupe. Parce que c'est son plaisir d'ennuyer le groupe. D'accord. Il peut habiter à 500 km, il a toujours des gens qui continuent à s'allier avec lui. Il est très fort pour s'allier. Tu vois. Bon, et puis, troisièmement, s'allie du verbe lier. Ça lie les gens parce que ça prend une énergie énorme. Il te pompe toute l'énergie, un père narcissique. Si tu mets les trois verbes, les trois mois, comme tu peux faire. Hein, voilà. Oui.
Le pervers narcissique, il va particulièrement être habile à manier des narcissiques, justement.
Oui, narcissique. Non, surtout, alors, non, surtout des gens qui ont une certaine innocence.
Naïveté.
Mais c'est pas, naïveté, c'est un peu péjoratif. Moi, je dirais, c'est pas parce que je ne vois pas le mal que je suis naïf. Tu vois, je suis innocent. Tu vois, j'ai des gens qui ceux qui l'aspirent d'eux, tu vois, c'est leur vie. C'est leur pureté. Plus tu vas être vivant et pur, entre guillemets, tu as compris, je dis quoi, plus il a envie de capter ton énergie. Et parce que plus il veut te faire souffrir, parce que sa jouissance de faire souffrir l'autre. Jamais oublier ça, quoi. Alors oui, c'est pour ça que dans les églises, il a la place, tu vois, parce que justement, il fait croire, il a un discours qui est bon, et puis enfin, on revient à la prochaine fois là-dessus. Excusez-moi. Ça va, j'ai assez dit aujourd'hui ?
Oui.
Hein
oui.
Surtout la semaine prochaine, on se retrouve.
Ah oui, la semaine prochaine. Oui. Le jeudi prochain.
Ça va comme ça ?
Est-ce que tu es d'accord avec Scott Peck, qui a écrit Les gens du mensonge ? Il dit que les méchants sont ceux qui mentent. Et ça ne se voit pas sur eux. Quoi. Et ils mentent en permanence.
Alors, je ne l'ai pas lu. J'ai lu le premier, sur la conversion, qui est magnifique, de Scott Peck. Ouais. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Ouais. Mais bon, sûrement, c'est ça. Là.
Parce qu'un des traits de caractère du pervers, c'est qu'il ment en permanence.
Ah oui, c'est le menteur.
C'est le menteur.
Est-ce qu'il est séducteur aussi ?
Bien sûr, très séducteur. Oui. Très séducteur.
Et il se met en victime. Très
oui, bien. Facilement en victime aussi. Tout à fait ça.
Mais ce que tu disais, c'est vrai que j'en ai rencontré, ils ont une capacité d'attirer, c'est comme un astre, ils attirent.
Oui, ils sont brillants. Et souvent occupent une position brillante.
Ouais.
D'accord ? Narcissique, c'est ça. Il y a le mot narcissique là, hein, d'accord ? Pervers, narcissique. D'accord ? Voilà. C'est pour ça que c'est moi, mais écoutez, franchement. Hein, moi faire ça, mais non mais regardez-moi, hein, vous me connaissez. Hein. Ils n'aiment pas la psychologie, je peux te le dire.
Ils ne peuvent pas aimer vraiment. Aimer quelqu'un, être sincère.
Non. Ouais. Ça n'est pas ce qu'appelle aimer, bien sûr. Hein. Mais est-ce que nous sommes capables d'aimer sincèrement, nous? Déjà nous. Gens normaux. Hein, on est toujours intéressés dans l'amour. Comment ?
Est-ce que tu es d'accord avec cette conviction que j'ai, c'est que les pasteurs doivent être aussi psychologues.
En tout cas, de connaître les bases.
Parce que sinon, ils ne peuvent pas fonctionner.
Bah, gérer des ressources humaines, je veux dire, dans l'église, je veux dire, hein, où on ne marche pas que le trick, hein, où l'épanouissement du sujet est quand même une donnée de base. D'accord ? Hein ? On n'est pas là pour produire quelque chose, nous. Hein ? D'accord, excusez-moi, hein, parce que tu étais là. Hein ? D'accord ? On n'est pas là pour produire seulement. Hein ? Hein ? D'accord ? On est là aussi pour soutenir, aider, aimer, tout ça. C'est pas faire à mon avis. Hein ? D'accord ? Oui, alors, bien sûr. Bien sûr. Sinon, tu vas te culpabiliser.
Parce que
tu vas culpabiliser les gens.
Absolument pas la psychologie.
Non, ils sont pas beaucoup. Oui, mais ça.
Ils connaissent que le
spirituel. Des volontaires, c'est qu'a priori les premiers qui vont se lever, ce sont des narcissiques, pas des pervers, mais juste des narcissiques.
Ouais, ouais, ouais. J'ai vu, c'est formidable là-dessus. Hein. Les trois premiers, c'était quand il y avait, j'étais jeune à cette époque-là, c'était les réunions au moment du réveil charismatique. Hein. D'accord ? Tu as connu ça, toi ? Hein ? Les trois de qui je parle. Ouais. Les trois premiers qui donnent 50 000 francs, c'était des francs à l'époque, hein, ou 100 000 francs, c'était beaucoup, hein, ça faisait, je ne sais pas combien de milliers d'euros, c'est d'accord, viennent sur l'estrade à côté de moi. T'as toujours trois imbéciles qui se lèvent pour donner la grosse somme d'argent, tu vois. Et maintenant, les 10 autres qui vont donner... T'as connu ça ?
Oui.
Oui, oui, bien sûr. Quand tu connais un narcissique, tu peux le manipuler comme tu veux. Tu vois ? Ben, c'est la fontaine. Hein. Le corbeau et le renard. Mmh. Hein ? Tout flatteur, vite le départ de celui qui l'écoute. D'accord ?
Je l'avais même pas vu comme ça, d'eux-mêmes. Ils vont chercher eux-mêmes la récompense, quoi. Ils n'attendent même pas.
Oui, ils n'attendent même pas chercher, c'est vrai, ça aussi. J'étais raison.
Ouais. Encore plus dans les églises, c'est des structures bénévoles.
Oui, oui, oui.
Où finalement, on impose moins de contraintes aux gens. La plupart du temps, on n'ose pas.
On verra, c'est notre personnalité qui est là aussi, qui sera la personnalité évitante, tu vois. Enfin, on en parle la prochaine fois. J'arrête. Okay. Excusez-moi. Okay.
Est-ce que ça correspond aux attentes ?
Oui.
C'était peut-être pas des attentes.
Pardon ?
Trop court.
Est-ce que tu avec
J'ai essayé de tuer mes notes, mais j'ai parlé en...
Ouais. On a posé plein de questions.
Voilà. On va peut-être prier pour qu'on vienne entendre...
Pour digérer.
Digeste. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous appelles, Seigneur, et nous te
te remercions, Seigneur, pour ce temps que nous avons avec Jacques, pour réfléchir à ces choses, pour grandir, pour aussi, Seigneur, aider les personnes qui sont en difficulté, en souffrance, que nous puissions vraiment les discerner pour ne pas nous tromper, ceux qui ont besoin et ceux qui n'en ont pas besoin. Seigneur, nous avons besoin de ce discernement des choses aussi pour ne pas user aussi notre vie spirituelle, notre vie psychique. Seigneur, nous te remercions. Nous prions de bénir et de continuer à bénir Jacques, Seigneur, dans son ministère, sa femme aussi. Seigneur, et que tu le gardes et tu le protèges. Nous te prions dans le nom de Jésus.
Amen. Je vous ai fait une photocopie du pervers narcissique, je vais vous la laisser, vous la photocopierez. Hein.